Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans Actualité du Pape. En s'adressant aux fidèles de langue française au terme de l'audience générale de ce mercredi 18 janvier 2023, le pape François a affirmé qu'en matière d'évangélisation, le modèle suprême de l'annonce est Jésus, celui que saint Jean nomme le Verbe de Dieu. Notre Saint-Père a en effet poursuivi un nouveau cycle de catéchèses sur la passion de l'évangélisation. Nous avons retranscrit la semaine dernière la première de ces catéchèses, en voici la seconde. Chers frères et sœurs, bonjour. Mercredi dernier, nous avons ouvert un cycle de catéchèses sur la passion d'évangéliser, c'est-à-dire sur le zèle apostolique qui doit animer l'Église et tout chrétien. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le modèle suprême de l'annonce, Jésus. L'évangile du jour de Noël l'a défini comme le Verbe de Dieu. Le fait qu'il soit le Verbe, la parole, nous indique un aspect essentiel de Jésus. Il est toujours en relation, toujours en sortie, jamais isolé. Toujours en relation et en sortie. La parole en effet existe pour être transmise et communiquée. Il en est de même pour Jésus, parole éternelle du Père adressée à nous, communiquée à nous. Christ n'a pas seulement les paroles de vie, mais il fait de sa vie une parole, un message. Il vit, pour ainsi dire, toujours tourné vers le Père et pour nous. Toujours en regardant le Père qui l'a envoyé et en nous regardant, nous, vers qui il a été envoyé. En effet, si nous regardons ces journées décrites dans les évangiles, nous voyons qu'en premier lieu, il y a l'intimité avec le Père, la prière, pour laquelle Jésus se lève tôt, quand il fait encore nuit, et va dans des zones désertes pour prier, pour parler avec le Père. Toutes les décisions et tous les choix plus importants, il les prend après avoir prié. C'est précisément dans cette relation, dans la prière qui le lie au Père dans l'esprit, que Jésus découvre le sens de son être d'homme, de son existence dans le monde, parce que lui est en mission pour nous, envoyé par le Père à nous. À cet égard, le premier geste public qu'il pose après les années de sa vie cachée à Nazareth est intéressant. Jésus ne fait pas un grand prodige, il ne lance pas un message sensationnel, mais se mêle aux gens qui allaient se faire baptiser par Jean. Il nous offre ainsi la clé de son agir dans le monde. Se dépenser pour les pécheurs en étant solidaire de nous sans distance, dans le partage total de la vie. En effet, en parlant de sa mission, il dira qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Chaque jour après la prière, Jésus consacre toute sa journée à l'annonce du royaume de Dieu et la consacre aux personnes, en particulier les plus pauvres et les plus faibles, les pécheurs et les malades. C'est-à-dire que Jésus est en contact avec le Père dans la prière et ensuite il est en contact avec tous les gens pour la mission, pour la catéchèse, pour enseigner le chemin du royaume de Dieu. Or, si nous voulons représenter son style de vie par une image, nous n'avons aucune difficulté à la trouver. Jésus lui-même nous l'offre. Nous l'avons bien entendu, en se présentant comme le bon pasteur. Celui qui, dit-il, donne sa vie pour ses brebis. Ça, c'est Jésus. En effet, être pasteur n'était pas seulement un travail qui demandait du temps et beaucoup d'engagement. C'était un véritable mode de vie. 24 heures sur 24, vivre avec le troupeau, l'accompagner au pâturage, dormant parmi les brebis, prenant soin des plus faibles. Jésus, en d'autres termes, ne fait pas quelque chose pour nous, mais donne tout, donne sa vie pour nous. Son cœur est un cœur pastoral. Il fait le pasteur avec nous tous. En effet, pour résumer l'action de l'Église en un mot, le terme pastoral est souvent utilisé. Et pour évaluer notre travail pastoral, nous devons nous confronter au modèle, nous confronter avec Jésus, Jésus, le bon pasteur. Avant tout, nous pouvons nous demander, limitons-nous en nous abreuvant aux sources de la prière, afin que nos cœurs soient en syntonie avec le sien? L'intimité avec lui est, comme le suggère le beau volume de Don Chotard, l'âme de tout apostolat. Jésus lui-même a dit clairement à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si l'on est avec Jésus, on découvre que son cœur pastoral bat toujours pour qui est perdu, égaré, lointain. Et le nôtre? Combien de fois notre attitude avec les personnes un peu difficiles ou qui sont un peu difficiles s'exprime par ces mots? Mais c'est son problème, qu'il se débrouille. Mais Jésus n'a jamais dit cela, jamais. Il est toujours allé à la rencontre des marginaux, des pécheurs. On l'a accusé de cela, d'être avec les pécheurs, parce qu'il leur apportait le salut de Dieu. Nous avons entendu la parabole de la brebis perdue au chapitre 15 de l'évangile de Luc. Jésus parle aussi de la pièce de monnaie perdue et du fils prodigue. Si nous voulons former notre zèle apostolique, le chapitre 15 de Luc devrait toujours être sous nos yeux. Lisez-le souvent. Là, nous pourrons comprendre ce qu'est le zèle apostolique. Là, nous découvrons que Dieu ne reste pas à contempler l'enclos de ses brebis, ni ne les menace pour qu'elles ne s'en aillent pas. Au contraire, si quelqu'un sort et se perd, il ne l'abandonne pas, mais la cherche. Il ne dit pas « elle est partie, c'est sa faute, c'est son affaire ». Le cœur pastoral réagit d'une autre manière. Le cœur pastoral souffre et le cœur pastoral risque. Il souffre, oui, Dieu souffre pour qui s'en va, et en le pleurant, il l'aime d'autant plus. Le Seigneur souffre lorsque nous nous éloignons de son cœur. Il souffre pour ceux qui ne connaissent pas la beauté de son amour et la chaleur de son étreinte. Mais en réponse à cette souffrance, il ne se renferme pas, mais au contraire prend des risques. Il laisse les 99 brebis qui sont en sécurité et s'aventure à la recherche de celles qui manquent, faisant ainsi quelque chose d'hasardeux et même d'irrationnel, mais en consonance avec son cœur pastoral, qui éprouve de la nostalgie pour qui s'en est allé. La nostalgie pour ceux qui sont partis est constante en Jésus. Et lorsque nous apprenons que quelqu'un a quitté l'Église, que disons-nous? Qu'il se débrouille? Non, Jésus nous enseigne la nostalgie de ceux qui sont partis. Jésus n'a ni colère ni ressentiment, mais une nostalgie irréductible de nous. Jésus se languit de nous, et c'est le zèle de Dieu. Et je me demande, nous, avons-nous des sentiments similaires? Peut-être considérons-nous ceux qui ont quitté le troupeau comme des adversaires ou des ennemis. Et celui-là, non, il est parti ailleurs, il a perdu la foi, l'enfer l'attend. Et nous sommes tranquilles. En les rencontrant à l'école, au travail, dans les rues de la ville, pourquoi ne pas penser plus tôt que nous avons une bonne occasion de leur témoigner la joie d'un Père qui les aime et ne les a jamais oubliés? Non pas pour faire du prosélytisme, non, mais pour que là arrive la parole du Père, pour marcher ensemble. Évangéliser n'est pas faire du prosélytisme. Faire du prosélytisme est une chose païenne, ce n'est ni religieux, ni évangélique. Il y a une bonne parole pour ceux qui ont quitté le troupeau. Et nous avons l'honneur et la responsabilité d'être ceux qui expriment cette parole. Parce que la parole, Jésus, nous demande cela. De nous approcher toujours avec un cœur ouvert de tous, parce que lui est comme cela. Peut-être suivons-nous et aimons-nous Jésus depuis si longtemps. Et ne nous sommes-nous jamais demandé si nous partageons ces sentiments, si nous souffrons et risquons en syntonie avec le cœur de Jésus, avec ce cœur pastoral, proche du cœur pastoral de Jésus? Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, je l'ai dit, pour que les autres soient des nôtres. Non, cela n'est pas chrétien. Il s'agit d'aimer pour qu'ils soient des enfants heureux de Dieu. Demandons dans la prière la grâce d'un cœur pastoral, ouvert, qui se tienne proche de tous, pour apporter le message du Seigneur et aussi pour sentir pour chacun la nostalgie du Christ. Parce que sans cet amour qui souffre et qui risque, notre vie ne va pas bien. Si nous, chrétiens, n'avons pas cet amour qui souffre et qui risque, notre vie ne va pas bien. Les pasteurs qui sont pasteurs d'eux-mêmes, au lieu d'être pasteurs du troupeau, sont des coiffeurs de brebis exquises. Nous ne devons pas être les pasteurs que de nous-mêmes, mais les pasteurs de tous. Il s'agit de la première semaine de prière pour l'unité des chrétiens depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a près d'un an. Plus de 330 jours de guerre qui ont compliqué les relations entre orthodoxes ukrainiens, sans même évoquer les orthodoxes russes, mais qui ont aussi parfois pu rapprocher certaines communautés chrétiennes. Pavlo Smitsniuk, théologien, philosophe ukrainien, est l'ancien directeur des études œcuméniques de l'Université catholique de Lviv. À présent chercheur à Princeton aux États-Unis, il nous livre son regard sur l'œcuménisme éprouvé par le drame existentiel de la guerre. Voici l'entretien qu'il a donné. Comment aborder l'unité des chrétiens en temps de guerre? Et comment l'œcuménisme évolue-t-il au fil de celle-ci? Le philosophe grec Héraclite d'Éphèse formulait son idée de la guerre comme polémos, le roi qui décide de tout, qui change tout. La guerre a changé la manière dont on imagine, parle, prie pour l'unité des chrétiens. En situation de paix comme en France, Suisse, Italie, l'œcuménisme n'est pas une question tellement pratique et nécessaire. Le fait d'être séparé est ressenti seulement sur le plan théologique, comme une erreur d'histoire, mais n'influence pas le quotidien. En Ukraine, la guerre fait que chaque moment d'absence d'unité est senti de façon existentielle. Surtout dans l'orthodoxie ukrainienne, où les rapports sont complexes entre les deux juridictions. La guerre a aggravé ces tensions. D'un autre côté, elle a aussi uni les chrétiens d'Ukraine, catholiques, orthodoxes et protestants, d'une manière pratique, par l'aide humanitaire, l'accueil des réfugiés, des Est-Ukrainiens, des orthodoxes, par les Ouests ukrainiens catholiques dès les premiers jours, notamment à l'Université catholique de Lviv, mais aussi par la coopération internationale, où il s'agit de porter ensemble la voix des chrétiens ukrainiens à l'étranger. Et comment l'œcuménisme est-il considéré dans le monde orthodoxe? Le terme même d'œcuménisme est en quelque sorte disqualifié. Il l'interprète comme une forme de syncrétisme et de compromis religieux sur la théologie, ce que l'œcuménisme n'est pas. Prudence est donc de mise sur ce sujet. Il y a des tensions avec l'Église autocéphale devenue indépendante, qui n'a pas encore eu d'expérience de dialogue œcuménique au niveau international. Elle n'était pas membre du Conseil œcuménique des Églises, n'a pas eu de relation ni avec le Saint-Siège, ni avec d'autres acteurs œcuméniques. C'est le moment pour elle de découvrir aujourd'hui ce dialogue. Il y a beaucoup de projets à l'étude. Par exemple, l'Institut d'études œcuméniques de Lviv a un projet sur la formation des séminaires, réunissant des séminaires catholiques et orthodoxes, mais aussi les protestants. C'est un long chemin difficile, compliqué par la guerre, même si, de par le drame existentiel qu'elle représente, elle nous fait aussi prendre conscience que nos conflits interconfessionnels ont peut-être moins de raison et d'importance que l'on ne l'a toujours cru. Le thème de cette semaine pour l'unité des chrétiens est « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » du livre d'Isaïe. Comment ce verset peut-il s'appliquer aux Ukrainiens qui luttent aujourd'hui pour leur liberté? La justice et la paix vont de pair quand on réfléchit sur la guerre. Mais il y a une tension entre ces deux notions. Il est parfois difficile de les faire tenir ensemble. Je pense que pour la majorité des Ukrainiens, si l'on faisait la paix aujourd'hui, ce ne serait pas une situation vraiment juste. Il y a un malaise à parler de paix sans la justice. De notre côté, si en cherchant la justice, l'on ne pense pas à la paix, c'est aussi un problème. Le pape François met souvent en garde à ce sujet. Quand l'on cherche la justice de façon trop abstraite, l'on peut oublier les victimes. Cette prière pour l'unité nous invite au niveau abstrait, théologique, social, mais aussi très pratique, à rendre notre société plus juste. Vous êtes désormais aux États-Unis. Des chrétiens du Minnesota ont choisi le thème de la semaine de prière de cette année. Que percevez-vous du regard chrétien américain sur la guerre en Ukraine ? Les États-Unis, comme État, soutiennent l'Ukraine dans sa lutte pour la sauvegarde de sa souveraineté. Il y a beaucoup de solidarité au niveau pratique. En même temps, les États-Unis ont participé à beaucoup de guerres. Les chrétiens américains sont aussi conscients que chaque participation à un conflit peut rendre les situations plus compliquées, avec des conséquences visibles seulement à plus long terme. Il y a beaucoup de solidarité, mais aussi de prudence. Les Américains ont beaucoup appris de leur histoire, de leur participation aux guerres en Amérique latine, au Moyen-Orient ou en Asie. Ils ont lu cette participation de façon critique, ce qui éclaire leur approche dans cette guerre en Ukraine. Que diriez-vous aux catholiques russes en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens ? C'est une question difficile. Je connais beaucoup de catholiques en Russie, ayant visité des communautés à Moscou et en Sibérie, à Novossibirsk, à Irkoutsk. Ils sont dans une situation très compliquée, dans la mesure où ils trouvent cette guerre absurde et affreuse, mais ne peuvent pas la condamner, car la pression gouvernementale est trop forte sur les citoyens russes. Pour survivre, ils doivent être très prudents et quelquefois silencieux, comme beaucoup d'autres chrétiens dans le monde, d'ailleurs. Il faut qu'ils prient, qu'ils restent humains et restent chrétiens. Il faut qu'ils se souviennent qu'ils font partie d'une grande communauté catholique à laquelle appartiennent aussi les catholiques ukrainiens. J'espère que lorsque cette guerre finira, et elle finira un jour, les catholiques russes et ukrainiens pourront ensemble entreprendre un chemin de réconciliation. Mais pour cela, il faut rester chrétien. Rester fidèle à l'Évangile dans sa radicalité. Plus il y aura de voix chrétiennes en Russie, véritablement évangéliques, plus il sera compliqué de dire que tous les Russes sont coupables et responsables de cette guerre. Plus les catholiques, les orthodoxes, les protestants ou même les sécularisés en Russie restent plus chrétiens, condamnent cette guerre de façon explicite ou implicite dans les cœurs, plus la réconciliation sera possible et rapide. Un chrétien sur sept est persécuté dans le monde, Dans son index mondial publié ce mercredi 18 janvier, l'ONG protestante s'inquiète d'une hausse continue des persécutions contre les chrétiens depuis 30 ans. En 2022, plus de 360 millions ont été fortement persécutés et discriminés, en particulier en Corée du Nord, au Nigeria, ou au Yémen. Je vous demande à tous de prier avec moi pour le père Isaac Ashi, du diocèse de Mina, dans le nord du Nigeria, qui a été tué dimanche dernier dans sa maison paroissiale. Combien de chrétiens subissent la violence dans leur propre peau ? Prions pour eux. L'appel du pape François, lancé ce mercredi 18 janvier, au cours de l'audience générale hebdomadaire, résonne avec les conclusions du 30e rapport annuel de l'ONG Porte Ouverte, paru dans la matinée. Cette ONG protestante publie chaque année un index mondial de la persécution menée contre les chrétiens, recensant toutes les atteintes, allant de l'oppression quotidienne discrète aux violences les plus extrêmes. Entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, ce sont ainsi plus de 360 millions de chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants, baptistes, évangéliques, pentecôtistes, dans 76 pays qui ont été fortement persécutés dans le monde, soit un chrétien sur 7. Le nombre est identique à la période précédente. Mais depuis 30 ans, la persécution s'est étendue et intensifiée, a précisé Guillaume Guénec, le responsable du plaidoyer. En 2022, 5621 chrétiens ont été tués, contre 5898 l'année précédente. L'ONG a aussi comptabilisé 4542 chrétiens détenus, dont 1750 en Inde, contre 4277 en 2021 et 5259 chrétiens kidnappés, dont 4726 au Nigeria. Le nombre total d'églises fermées, attaquées, détruites s'établit à 2110. Toute persécution confondue, la Corée du Nord est passée en tête de ce classement annuel, détrônant l'Afghanistan, suivant ensuite la Somalie, puis le Yémen, l'Érythrée, la Libye, le Nigeria, le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan et le Soudan. En Corée du Nord, une loi adoptée en 2020 stipule qu'être chrétien ou posséder une Bible est un grave délit sévèrement puni. Beaucoup d'églises secrètes ont été découvertes, des chrétiens arrêtés, envoyés en camp de prisonniers politiques ou exécutés. Sur les 30 dernières années, trois tendances sont constatées. Le continent africain est marqué par une montée en puissance de l'extrémisme islamique, avec 26 pays à persécution forte contre 7 en 1993. En outre, les chrétiens sont souvent les victimes du nationalisme religieux ou idéologique, ajoute l'ONG en citant la Chine depuis 2017, ou encore l'Inde, avec une explosion des violences contre les chrétiens et les musulmans depuis 2014. Enfin, l'organisation déplore l'exode chrétien du Moyen-Orient. Les exactions de l'aile ayant encouragé les chrétiens à fuir l'Irak et la Syrie. Chers auditeurs, c'était notre émission Actualité du Pape. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.